9h30 ici à Paris, 2h de moins en temps universel. L'actualité africaine avec vous, Simon Bourtembourg, et on revient sur les relations entre Alger et Paris qui se réchauffent après 8 mois de crise.
Le ministre français des Affaires étrangères a en tout cas rencontré le président Tebboune ce week-end. Les sujets les plus épineux n'ont pas fait l'objet de commentaires devant les caméras, mais voilà tout de même une étape importante qui a permis de renouer le dialogue. 3000 personnes rassemblées devant l'ambassade américaine à Nouakchott. Drapeau palestinien en main, les manifestants scandaient des slogans hostiles aux États-Unis et à Israël. À la une également, au moins 30 personnes mortes à Kinshasa après les inondations du week-end. Ceux qui ont tout perdu se comptent, eux, par milliers. Beaucoup sont hébergés au stade Tata Raphaël où Félix Tshisekedi s'est rendu hier. Et puis de la musique, en fin de journal, nous serons au Cap-Vert où l'Atlantic Music Expo vient d'ouvrir.
Un retour donc au débat et à la diplomatie entre Alger et Paris.
L'ensemble des mécanismes de coopération vont reprendre, assure le ministre français des Affaires étrangères. Un premier pas significatif en 8 mois de relations très tendues entre la France et l'Algérie. Des rencontres bilatérales auront donc lieu pour évoquer les sujets sécuritaires, migratoires et judiciaires. Les deux pays souhaitent aussi donner une impulsion pour la reprise des échanges commerciaux. Par contre, les sujets les plus polémiques n'ont, eux, pas été abordées face aux médias. Lisa Fabian.
Le président algérien a parlé d'un lever de rideau durant son entretien de plus de 2h30 avec le ministre français des Affaires étrangères, mais la discrétion est toujours de mise sur certains sujets. Le plus sensible, le Sahara occidental et la position d'Emmanuel Macron favorable au plan d'autonomie marocain. Un sujet central, mais sur lequel Jean-Noël Barrot n'a rien dit publiquement. Les Algériens ont annoncé leur intention de s'exprimer sur la question lors de la prochaine réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, actuellement présidée par la France. De la même manière, la question de la révision des accords encadrant la circulation des ressortissants algériens en France n'est plus abordée frontalement. Le ministre a estimé qu'il s'agit avant tout d'appliquer les traités existants de manière plus efficace. Côté français, on admet que le retour à des relations plus apaisées avec l'Algérie va prendre du temps, tout en restant persuadé que les échanges de dimanche constituaient une étape nécessaire pour relancer la relation.
Sur un autre front, le ton monte encore entre Alger et les 3 pays membres de l'AES. L'escalade est de mise depuis la destruction fin mars d'un drone malien par l'Algérie à la frontière entre les deux pays. Alger et Bamako ont annoncé la fermeture de leur espace aérien respectif. Un peu plus tôt, l'Algérie a répondu au Mali et à ses alliés nigériens et burkinabés. Bamako assure de son côté que son drone n'est jamais entré sur le territoire algérien et qu'il n'avait donc pas à être abattu comme l'a revendiqué l'Algérie. Des drapeaux palestiniens brandis dans les rues de Tunis. Des milliers d'étudiants ont défilé dans la capitale tunisienne et d'autres villes du pays. Une grève générale décrétée par les syndicats étudiants pour protester contre la reprise des bombardements israéliens dans la bande de Gaza. Si la mobilisation pour soutenir les Gazaouis est toujours présente dans le pays à travers des rassemblements hebdomadaires, il n'y avait pas eu de manifestation de cette envergure en Tunisie depuis des mois.
Et puis en Mauritanie aussi, un rassemblement pour dénoncer la guerre à Gaza.
Cette fois devant l'ambassade des États-Unis à Nouakchott, le mouvement a rassemblé plusieurs syndicats de l'enseignement privé et public, des oulémas également et des figures de la société civile. Les manifestants réclament l'expulsion de l'ambassadeur américain en Mauritanie. Des hommes et des femmes qui dénoncent aussi, je cite, le génocide à Gaza, alors que le premier ministre israélien est visé par un mandat d'arrêt de la CPI pour crime de guerre contre l'humanité. Une commission d'enquête de l'ONU accuse par ailleurs Israël d'actes génocidaires. Mais pour Abdoulaye Sarr, secrétaire général de l'association mauritanienne main dans la fraternité, il faut désormais passer aux sanctions.
Ce sitting a deux objectifs essentiels. Le premier objectif, de dire à l'État mauritanien de chasser l'ambassade des États-Unis qui est l'ambassade qui parraine le génocide à Gaza. Nous considérons que les gens qui sont tués à Gaza ne sont pas tués par les sionistes, qu'ils sont tués par les États-Unis d'Amérique. Les bombes américaines et les avions américains sont celles qui tuent le peuple palestinien. Le deuxième message, c'est de dire que tous les musulmans du monde doivent bouger pour arrêter ce génocide. Et c'est pourquoi il y a une grève mondiale aujourd'hui pour soutenir la cause palestinienne. Et que tous les musulmans de Mauritanie sont là pour dire qu'ils sont pour l'arrêt du génocide à Gaza et que tout le monde doit bouger. Cette mobilisation n'est pas une mobilisation d'un syndicat ou d'une association, c'est la mobilisation de tout le peuple mauritanien. Les gens qui sont là représentent tous les partis politiques, tous les syndicats, toutes les mouvances, les étudiants, les hommes, les femmes. Cette mouvance est une mouvance nationale et il suffit d'observer pour voir qu'il n'y a pas un étendard qui réunit tout ce monde.
Abdoulaye Sarr, secrétaire général de l'association mauritanienne Main de la Fraternité.
RFI 7h35 à Dakar. Voilà un peu plus d'un an que Bassirou Diomaye Faye accédait à la présidence sénégalaise.
Et dès son arrivée au pouvoir au début du mois d'avril 2024, donc il s'était engagé à soutenir une presse libre et diversifiée. Un an plus tard, c'est un bilan en demi-teinte pour l'ONG Reporters sans frontières qui salue tout de même une certaine mesure, notamment pour réformer le secteur, mais regrette des conséquences limitée et la suspension également des contrats publicitaires. Sadibou Marong est directeur régional pour Reporters sans frontières en Afrique subsaharienne.
Les autorités sénégalaises ont quand même annoncé certaines réformes positives dans le secteur des médias. Donc, notamment, il y a l'enregistrement des organes de presse sur une plateforme qui est dédiée, et cela, c'est pour plus de transparence sur le paysage médiatique. Et les publics, bon, il y a aussi, ils ont commencé également à actualiser la loi sur la publicité afin d'en renforcer la régulation. Maintenant, la question de la soutenabilité économique des médias doit être davantage prise en charge. Nous avons constaté, en tout cas en parlant avec un certain nombre d'acteurs, que certains médias percevaient des soutiens financiers publics par le biais de publicité, mais maintenant cela a été suspendu et cela a davantage précarisé un peu le nombre de journalistes qui nous ont confirmé qu'ils ont eu des arriérés de salaire du fait de cette baisse de financement. Pour nous, c'est important un peu d'aller vers davantage de concertation pour dépasser cela et mettre en place un peu un mécanisme assez pérenne qui puisse permettre un peu à ce secteur vital-là qui est la presse de pouvoir un peu s'en sortir.
Un témoignage au micro RFI de Juliette Dubois. Un moment de recueillement teinté cette année de politique. Le contexte de grave tension régionale a été évoqué hier alors que le Rwanda lançait des commémorations du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Il y a 31 ans, entre avril et juin, des massacres étaient commis partout dans le pays, visant donc la communauté Tutsi et des Hutu modérés. Dans son discours hier, le président rwandais Paul Kagame a déclaré que les pays sanctionnant Kigali pouvaient aller au diable. Le Rwanda est ciblé depuis plusieurs semaines pour son implication dans le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo.
L'heure est justement au constat des dégâts à Kinshasa.
Oui, les dégâts, ils sont partout dans la capitale congolaise, cette fois à cause de l'eau qui a rapidement envahi les rues de plusieurs quartiers populaires, engloutissant voitures et maisons. Le bilan humain est lui aussi très lourd, au moins 30 morts selon le dernier décompte toujours provisoire. Et là où l'eau est montée le plus vite, ceux qui ont échappé à la mort ont tout perdu. Des sinistrés qui ont été abrités dans des hébergements d'urgence. Ils sont près de 600 à avoir passé la nuit sur un matelas posé à même le sol au stade Tata Raphaël, au cœur de Kinshasa. Un reportage signé Paulina Zidi.
Nous sommes venus ici par l'appel du gouvernement. On nous a appelés, on nous a dit de venir ici pour qu'on se réfugie, vu qu'il y avait inondation là-bas dans nos quartiers.
Devant le gymnase, Chared et un petit groupe de sinistrés attendent d'être enregistrés. Ils ont les regards marqués par la fatigue et l'angoisse de ces derniers jours.
On n'a pas du tout dormi, vu qu'il y avait beaucoup d'eau. Il y a des moustiques, il y a des insectes, il y a des serpents qui sortent dans l'eau. Il n'y a même pas moyen de dormir, tu vois, dormir en haut.
Grâce est arrivée il y a déjà plusieurs heures, mais elle n'a pas encore pu se reposer. Elle attend d'obtenir un matelas.
On nous a donné ses mains à manger et à boire. Il nous a dit qu'il y aura d'autres matelas. Donc nous sommes en train de patienter. Malgré tout, j'ai mal au dos, je ne me sens pas vraiment bien.
Gladine a pu s'installer avec ses enfants dans un coin de la salle, mais elle reste très marquée par la montée subite des eaux.
On était là à la maison, subitement, on a vu de l'eau qui venait avec pression. Donc ça a entré dans des maisons, donc ça détruit. Et puis il y a des gens qui ont perdu le mari, qui ont perdu des femmes. Il y a des gens qui ont perdu leurs enfants. On est en train de chercher, donc on est éparpillés. Papa à côté, maman à côté, les enfants à côté.
Sans maison, sans affaires et sans argent, les sinistrés attendent des solutions de relogement de la part du gouvernement. Paulina Zidi, Kinshasa, RFI.
Il avait fait le buzz après avoir lancé des billets de banque pendant son mariage. Point d'orgue des noces au Nigeria, la pratique est donc pourtant interdite depuis 2007 car considérée comme une insulte à la monnaie nationale. Un tribunal fédéral de Kano a donc condamné à 6 mois de prison ferme Abdoulaye Moussa Ousseini, connu sous le nom d'Amouscap auprès de ses 153 abonnés sur Instagram.
Et puis direction le Cap-Vert où l'Atlantic Music Expo vient de s'ouvrir à Praia.
La capitale va donc vibrer toute la semaine au son des musiques musique du monde. C'est la 11e édition de ce grand marché de la musique, un événement désormais essentiel pour faire rayonner l'archipel capverdien. Et c'était une tradition, l'événement s'ouvre avec une cérémonie officielle qui a lieu à l'Auditorium National. Le reportage de Guillaume Thibault.
Insuffler la joie et la douceur, faire entendre et connaître les nouvelles voix du pays et d'ailleurs, comme ici le jeune Joshua Martins, l'ADN de l'Atlantic Music Expo, une vision soutenue par le Premier ministre Ulys Correa e Silva.
La musique, c'est résilient, le message de paix. La crise, la récession économique touche tout le monde. Il faut vivre, toucher la conscience des gens et des politiciens.
Avec un budget de 160 000 euros, l'Atlantic Music Expo réussit à réunir des artistes locaux, mais aussi du Sénégal, du Maroc ou encore du Brésil. Un partenariat public-privé essentiel, explique le directeur Benito Dalus Lopez.
Si, c'est très difficile pour tout le monde, mais au Cap-Vert, c'est toutes les entreprises, le gouvernement qui donnait une bonne part de budget.
Dans un monde en tension, à l'économie fortement perturbée, l'Atlantic Music Expo met donc en avant l'or du Cap-Vert, sa musique, explique Jorge Lima, membre du mythique groupe Ochtubaroish et ancien conseiller à la présidence de la République.
La musique et le tourisme que le Cap-Vert vit, c'est sa fortune. On n'a rien d'autre, rien. C'est ça qu'on a. Et la démocratie, c'est ça.
Guillaume Thibault Praia, RFI.
Obrigado.
Et avec ce festival Praia, capitale du Cap-Vert, qui s'inscrit au cœur des musiques créoles, à cette édition de l'Atlantic Music Expo, c'est à suivre toute cette semaine. RFI, 9h41, ici à Paris, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la fin d'RFI Matin avec vous, de Clotilde Dumay.
Et c'était le journal de Simon Bourtembourg.